Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditeurs et amis auditrices, bonjour. L'engagement, c'est, me semble-t-il, le mot qui résume la trajectoire de mon invité d'aujourd'hui, Christophe Cazard. Engagement politique au Parti communiste puis à Europe Écologie Les Verts, avec des fonctions de conseiller général du canton de Saint-Chaptes, c'est dans le Gard, de 1998 à 2014, et de député du Gard de 2012 à 2017. Engagement professionnel ensuite, en tant que, depuis 2019, responsable pour l'Occitanie de l'association Coalia. Christophe Cazard, vous avez ainsi renoué avec votre métier d'origine de travailleur social et d'éducateur. Coalia a été créée sous un autre nom en 1962 par Stéphane Hessel et André Postelvinet. 40 ans plus tard, c'est en France, en 2021, 4300 salariés, 755 établissements et services, plus de 100 000 personnes hébergées, logées, accompagnées. Coalia intervient auprès des personnes les plus vulnérables, publics en situation d'exclusion, mères isolées, sans-abri, réfugiés et demandeurs d'asile, travailleurs migrants, personnes âgées ou personnes handicapées. Nous allons parler de son action, notamment à Montpellier, notamment la gestion de la fin du bidonville de Celle-Neuve et l'installation des familles dans le village de transition, nous verrons ce que c'est, aménagé dans le quartier de La Rose. Mais d'abord, demandons au gardois Christophe Cazard, enraciné du côté du Zès, racontez-nous votre Montpellier. Quels mots vous viennent à l'esprit pour décrire la ville ? En quoi se caractérise-t-elle, quoi, avec votre regard, vous n'arrivez pas de la lune, vous êtes fréquemment à Montpellier, mais voilà, ce petit regard de côté qui va nous être utile.
Donc bonjour et merci de l'invitation. Effectivement, le Gardois est rural, hein, puisque effectivement, moi j'ai la chance de vivre entre Nîmes et Uzès dans la campagne. Et donc pour moi, Montpellier, ben, aujourd'hui, c'est évidemment d'abord la zone urbaine, la métropole. Mais c'est aussi une ville extrêmement vivante, extrêmement riche sur le plan culturel, sur le plan aujourd'hui aussi de l'ensemble de sa population, que ce soit, j'imagine, des gens qui sont à Montpellier depuis plusieurs générations, mais évidemment aussi toutes ces personnes qui viennent à Montpellier, attirées aussi par cette belle ville et qu'on peut croiser dans la ville et que moi je croise, y compris certes pour des raisons professionnelles, mais aussi en tant qu'acteur de la ville, qui soient les plus jeunes, l'ensemble des étudiants. D'ailleurs, j'ai un fils qui étudie à Montpellier. Et puis, évidemment, toutes les personnes d'origine différente qu'on peut croiser aussi dans une ville, une métropole, j'ai envie de dire, même aussi importante que Montpellier. Donc, il y a ce plaisir aussi de pouvoir être dans une ville qui me semble franchement très ouverte, qui permet aujourd'hui, qui est en dynamique permanente aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai 52 ans. J'ai tout un vécu quasiment dans le Gard. Et j'ai vu aussi cette évolution de cette ville. Et c'est aussi une ville d'attraction au-delà de la ville elle-même pour toute la région, y compris la nouvelle région. Et qui, du coup, nous permet aussi de pouvoir venir à Montpellier avec vraiment le plaisir d'y trouver, une fois de plus, une richesse d'offres qui nous intéresse, même quand on vit dans le Gard. Et même si, et ça c'est le petit clin d'œil, pour tous ceux qui s'intéressent au sport et particulièrement au football, les vieux derbys Nîmes-Montpellier, là ça sera plus dur, hein, vu qu'il y en a une des deux équipes qui malheureusement n'est plus tout à fait au même niveau. Mais voilà, ça a fait beaucoup couler d'encre, ça nous a beaucoup animés, mais ça c'est plus, j'espère, quelque chose qui est un clin d'œil et un sourire. Donc il y a effectivement aujourd'hui, même pour le Gardois, le grand plaisir à venir, et puis du coup, ben, très régulièrement, voire quotidiennement à Montpellier pour des réseaux professionnels.
Mais est-ce qu'il y a des lieux que vous affectionnez particulièrement, y compris ceux qui ne sont pas sur les cartes postales ?
Alors oui, bien sûr. Alors, comme tout le monde quand même, parce que moi j'ai eu la chance, y compris, j'ai encore la chance d'ailleurs, d'avoir des liens familiaux avec des gens qui vivent plutôt du côté boutonné, les Beaux-Arts. J'ai mon fils, je lui ai dit, qui est étudiant, donc qui n'est pas loin de la fac de Paul Valéry. Donc c'est vrai que cette partie-là de Montpellier, c'est une sorte de village dans la ville. Donc
oui, c'est vrai, très vivant pour le coup.
Extrêmement vivant. des soirées là aussi dans des différents lieux qui permettent vraiment de découvrir la richesse dont je parlais tout à l'heure. Et puis il y a aussi les autres parties. Je vois par exemple, moi professionnellement, je suis lié plutôt sur le secteur près d'Arène. Un secteur qui est en mouvement, alors là, urbanistique et social énorme, des mouvements aussi de changement de quartier, et qui me plaisent beaucoup. Parce que alors là, on va retrouver peut-être un autre type de population, une autre forme de relation. Moi, je suis un enfant issu d'un quartier sensible de la ville de Nîmes, qui s'appelle le Mas de Meng. Et j'aime bien aussi retrouver un peu cette saveur de la vie dans ces quartiers-là.
Un quartier populaire.
Quartier très populaire. Oui.
Alors, précisément, est-ce que, bon, la question est un peu caricaturale, est-ce que vous considérez qu'il y a deux Montpellier, d'un côté la vie de la réussite, du dynamisme, l'image que Montpellier porte, vous l'avez évoqué, et de l'autre, une ville un peu cachée, la ville des difficultés sociales, de la précarité. Est-ce que, bon, sans parler de ville à deux vitesses, est-ce que vous reconnaissez, je dirais, dans le distinguo, ça se voit dans les quartiers, me semble-t-il, entre ces différents Montpellier?
Absolument. Je pense, je ne connais pas toutes les villes de France et toutes les métropoles ou des villes aussi importantes que Montpellier. Je pense qu'on va retrouver quand même des phénomènes assez identiques à Montpellier qu'on peut retrouver dans des grandes villes. Je cite des quartiers que j'ai appris à encore mieux connaître ces derniers temps, maintenant que je viens à Montpellier régulièrement, mais je pense à Plancabanne, par exemple, qui sont des quartiers particuliers où un certain nombre d'ailleurs des personnes que je vais accompagner avec l'association pour laquelle aujourd'hui je travaille. Ben on va retrouver aussi une vie, voilà, Plancabanne, c'est le côté populaire, mais c'est aussi des côtés moins intéressants et plus difficiles en termes de problèmes de sécurité, en termes de problèmes de trafic, etc. J'enfonce une porte ouverte pour les Montpelliérains en le disant, mais en fait, c'est une réalité qui est en plus quasiment en cœur de ville. Il y a aussi, bien évidemment, une réalité sociale qui est due à un contexte particulier, où on va avoir de plus en plus de gens qui vont se confronter à des problématiques de logement. La pression immobilière à Montpellier est très forte, le prix au mètre carré est très élevé, et donc l'accès au logement devient très difficile pour beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc on va avoir évidemment une réalité sociale qui est à prendre à bras le corps, et on va rencontrer des gens en grande difficulté, et pas spécialement des gens, contrairement à ce qu'on croit, je me permets de le dire aussi volontiers, sur le fait qu'ils ne sont pas juste venus à Montpellier parce qu'il y avait du soleil, et donc il vaut mieux être pauvre à Montpellier sous le soleil que pauvre je ne sais où. Ce n'est pas la réalité de ce que moi je vois tous les jours. Ce sont des gens qui sont à Montpellier, mais qui prennent de plein fouet aussi la crise économique, les réalités sociales d'aujourd'hui et du contexte dans lequel on est. Et puis c'est aussi Montpellier, de par sa situation géographique, aussi une plateforme de croisement migratoire. Et donc on va aussi, mais ça c'est historique, c'est pas le contexte, mais évidemment, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est aussi encore plus grande réalité. Il suffit de voir ce qui se passe sur le plan géopolitique un peu partout dans le monde.
Alors voilà qui fait transition avec la deuxième partie de cet échange. J'ai dit à grands traits ce qu'était Coalia. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se fait à Montpellier, les différentes formes d'intervention? Vous avez évoqué les différentes questions touchant au logement, pour que les auditeurs voient à peu près ce dont il s'agit.
Alors en fait, Coalia, historiquement, vous l'avez rappelé, la création par Stéphane Hessel et puis toute l'histoire qui a été liée à essentiellement la question autour des personnes les plus fragiles qui n'ont pas accès au logement ou à l'hébergement d'ailleurs. Alors le distinguo entre les deux, c'est que le logement, c'est là où on habite les uns les autres. L'hébergement, ce sont des lieux où les gens vont peut-être avoir un toit en attendant de trouver le logement. Voilà, donc c'est la différence entre les deux. Et donc là, Coalia va travailler sur ces deux aspects, hébergement et logement, pour des personnes qui ne peuvent pas accéder aujourd'hui pour des raisons statutaires. On pense là, pour le coup, aux gens migrants, réfugiés, et toutes les questions aujourd'hui de problèmes administratifs qui permettent d'accéder au logement. Évidemment aussi pour des raisons économiques. Donc à Montpellier, les premiers établissements concernent les gens de la rue. Donc les SDF, pour vous parler clairement, qui aujourd'hui ont un certain nombre de réponses d'hébergement, avec notamment ce qu'on appelle les abris de nuit, c'est-à-dire tout simplement des gens qui sont à la rue et qui donc, au moins pour la nuit, ont un endroit pour pouvoir dormir au chaud, avec souvent lié à ça un certain nombre aussi de possibilités de repas et puis d'accès à ce que le commun des mortels demande tous les jours, c'est-à-dire des sanitaires, des douches, etc. Et donc là, on a ouvert un établissement de 40 places pour des hommes isolés.
Il y a quelques mois, là, c'est bon.
C'était en janvier 2020.
D'accord.
Et donc, du coup, la particularité aussi, c'est qu'on prend les animaux. Donc vous avez souvent des gens à la rue qui ont des animaux et un certain nombre de nos collègues qui font la même chose à Montpellier historiquement, pour des raisons pas de choix, mais pour des raisons de construction, ne peuvent pas prendre les personnes avec les animaux. Or, du coup, ce qui se passe, c'est que les gens à la rue ne vont pas dans ces hébergements puisqu'il est hors de question pour eux de se séparer de leurs animaux. Nous, on les prend. Donc évidemment, ces 40 places sont réservées effectivement pour ces personnes-là, pour que la nuit, entre 18h et 9h du matin, pour être précis, ils puissent avoir un lieu d'hébergement. On a la même chose pour des femmes isolées, mais là, c'est un lieu d'hébergement plus pérenne puisqu'elles vont rester hébergées avec nous plusieurs mois en attendant de trouver la possibilité de pérenniser leur réponse de logement. Et puis, on est venu sur un autre volet à Montpellier, à la demande du département de l'Hérault, qui est l'accompagnement des mineurs non accompagnés. Et donc, là aussi, ce sont des établissements qu'on a ouverts.
Alors, on va expliquer ce que sont les mineurs accompagnés. Pour faire simple, ce sont des jeunes migrants livrés à eux-mêmes, réputés mineurs. Bon, il y a une polémique sur sont-ils mineurs ou pas, qui, on le sait, sont nombreux. Leur nombre, semble-t-il, s'est accru ces dernières années. Donc, une problématique de prise en charge par le département, mais pas que, qui est particulièrement difficile.
Voilà, sans rentrer trop dans les éléments techniques, mais effectivement, c'est bien aussi de savoir qui sont ces enfants. Alors, je fais exprès de parler des enfants, parce que justement, mineurs non accompagnés, ce sont des jeunes migrants de moins de 18 ans qui ont quitté leur pays volontairement ou involontairement et qui ont souvent d'ailleurs un parcours migratoire très difficile. Beaucoup arrivent d'Afrique subsaharienne, ils vont passer par la Libye. C'est quand même pas le meilleur endroit pour, pour passer aujourd'hui. Et ils vont arriver en France en espérant évidemment être accompagnés, protégés de par un certain nombre de problématiques qu'ils connaissaient soit dans leur famille, soit dans leur pays. Ils ont moins de 18 ans. Du coup, en France, c'est une particularité. La loi française est bien faite pour ça, parce qu'elle date de quand même très longtemps. Il y a la protection de l'enfance. Et donc en France, quelle que soit l'origine de l'enfant de moins de 18 ans, le principe de la loi française, c'est de pouvoir permettre de mettre à l'abri et de protéger et d'accompagner des enfants de moins de 18 ans, quelle que soit leur origine. Alors,
ça, effectivement, c'est important de le rappeler, c'est pas toujours connu. C'est-à-dire, au-delà de l'aspect humanitaire ou une fonction de solidarité, il y a une obligation légale de prise en charge de ces jeunes, quoi,
absolument,
et de ces enfants.
Absolument. C'est la loi française, une fois de plus, qui est dans le cadre des différentes lois de protection de l'enfance, ne fait pas de distinguo sur l'origine. Un enfant reste un enfant. Et à partir de là, il mérite d'être accompagné, protégé. Le mineur non accompagné, c'est qu'il n'est pas accompagné par qui ? Par ses parents, par de la famille. En fait, il est vraiment tout seul, il a moins de 18 ans, il est tout seul au milieu de notre pays. Et donc, on se doit, et donc cette compétence relève effectivement des conseils départementaux, parce que c'est eux qui, depuis maintenant pas mal d'années, ont la protection d'enfance.
Alors, que fait Coalia dans ce cadre, avec d'autres mais quelles sont les interventions que vous êtes en mesure d'activer ?
Donc là, nous, on accompagne avec des travailleurs sociaux ces enfants. Alors d'abord, ça reste des enfants, donc on les accompagne tout simplement dans le fait qu'ils vont grandir. Ils vont grandir avec nous, mais ils vont grandir. Ils arrivent, certains, ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, et on va les accompagner jusqu'à leurs 18 ans en lien avec le département. Et puis, évidemment, on va construire avec eux non seulement donc, une éducation, puisqu'il n'y a plus personne autour d'eux pour pouvoir travailler sur cette question, et puis, évidemment, ce qu'on appelle aussi l'insertion dans notre contexte sociétal, en vue, évidemment, qu'ils puissent accéder demain à une autonomie complète, c'est-à-dire comme n'importe quel enfant qui peut avoir ses droits, c'est-à-dire de futurs métiers, de future autonomie, future famille. Et donc, évidemment, c'est qu'on puisse construire avec eux tout ce parcours, ce qu'on fait tous avec nos enfants, pour ceux qui en ont, mais qui, évidemment, pour eux, relève de nos travailleurs sociaux, puisqu'ils sont tout seuls, et qui, du coup, méritent aussi la possibilité de pouvoir grandir dans des conditions souvent bien meilleures. Je donne aussi exprès des exemples, parce que ce n'est pas la migration pour la migration, c'est qu'il y a beaucoup de débats polémiques sur ce sujet, mais on a des enfants, par exemple, qui sont maltraités dans leur pays, soit par, une fois de plus, leur famille, pour des raisons économiques et sociales. Parfois, sont maltraités aussi par rapport à leur choix de vie. Je pense notamment à des jeunes garçons qui ont lié à l'homosexualité. Il y a certains pays en Afrique, et il y en a beaucoup, hélas, qui condamnent fortement, rejettent. Et puis, il y a des aspects culturels aussi, souvent, dans ces pays. Voilà. Donc, ces enfants, aujourd'hui, ils méritent d'être bien traités par nos équipes, par le principe de la loi.
Il y a quoi ? Il y a de l'hébergement ? De l'accompagnement vers les écoles obligatoires et au-delà vers des formations, ça se traduit comme ça notamment ?
Absolument. C'est-à-dire qu'en France, vous savez que tout enfant de moins de 16 ans doit être scolarisé, donc ils ont les mêmes possibilités. Ils ont évidemment aussi le fait qu'une fois de plus, quand j'ai dit on les accompagne à grandir, et bien là je reviens sur ce que je disais de Montpellier, ces enfants vont découvrir grâce à la ville de Montpellier des champs culturels qu'ils ne connaissaient pas. On les amène au théâtre, ils vont découvrir comme n'importe quel enfant le cinéma, ils vont découvrir toute l'organisation de la vie sociale qui peut exister chez nous. Donc on les accompagne aussi dans cette là. Et puis nous, dans l'inverse, on va s'enrichir parce qu'eux, ils arrivent avec leur culture. Et donc souvent, ils vont nous partager aussi. Et là, c'est assez magnifique, je le dis avec beaucoup de plaisir, parce que moi, je l'ai vécu en réalité, des soirées complètes où on va découvrir avec des jeunes qui sont vraiment afghans, qui sont...
Donc de la musique, par
etc.
exemple.
Ils vont danser, voilà. De la musique, ils vont parfois aussi nous faire partager un certain nombre de plats qui savent faire, etc. Au niveau cuisine, c'est assez merveilleux à vivre. On ne peut pas, dans sa vie, connaître tous les pays de l'origine de ses enfants, mais par contre, eux, nous en amènent un petit bout et on le partage avec eux.
D'accord. Et alors, quels sont les moyens dont vous disposez pour ces actions en termes d'équipe et en termes de financement, notamment par vous, les partenaires publics?
Alors là, il y a deux partenaires publics. Pour les personnes adultes à la rue, on a aussi des dispositifs pour accueillir des familles ukrainiennes, mais ça, c'est dû au contexte où on en parlera plus tard avec les gens qui étaient issus du bidonville de Seineuf. Ça, ce sont des crédits d'État. Donc, en gros, c'est les ministères concernés dans le cadre des budgets d'État qui sont liés. Aujourd'hui, l'État est déconcentré, donc il y a des services dans l'Hérault via le préfet. Hein, c'est lui qui représente l'État et qui vont nous donner des crédits pour pouvoir faire en sorte de payer les salaires de nos travailleurs sociaux, mais aussi l'hébergement de ces gens, la nourriture, etc. Et puis pour les jeunes, donc les enfants, c'est le conseil départemental qui, lui, va financer directement. Donc là, au niveau des moyens, bon, ça, c'est des grands débats. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Ça, c'est des politiques publiques. Bah, nous, on participe aussi à la définition de ces politiques publiques, puisque nous, on est de l'autre côté. Et donc, on définit avec les pouvoirs publics les moyens dont on a besoin. Et puis, les pouvoirs publics nous donnent aussi leurs propres contraintes en termes de budget. Et on arrive comme ça à construire d'année en année des budgets pour pouvoir mener nos missions d'une manière la plus correcte possible.
Et alors, des collaborateurs, j'imagine, pour faire tout ce travail, combien sont-ils et quel profil ont-ils de compétences ou de mode d'intervention?
Ça, c'est un point très important puisque nos associations sont aussi liées au monde de l'économie sociale et solidaire. Donc, le monde de l'économie sociale et solidaire, c'est de l'entrepreneuriat. C'est nos associations, il n'y a pas d'actionnaires et pas de dividendes. Hein, et voilà, nos conseils d'administration, ce sont des bénévoles, des gens bénévoles. Pour autant, c'est quand même aussi une action concrète en termes d'économie. Et il y a 70 salariés, par exemple, aujourd'hui à Coalia Hero. Donc dire entre le 1er janvier 2020 et aujourd'hui, dont je vous parle, il y a 70 emplois qui ont été créés pour pouvoir mener les missions. Et on est plutôt aujourd'hui dans des phases de développement. Donc on est aussi, je tiens à le dire, on a aussi des partenaires qui apportent de l'emploi, apportent un certain nombre de compétences sur des territoires. Et ça, on le partage volontiers avec beaucoup d'associations qui sont déjà à Montpellier, qui travaillent on l'a dit tout à l'heure, Coalia, c'est une association nationale avec des déclinaisons territoriales, mais on est sur un principe de coopération. Vous avez rappelé mon parcours tout à l'heure politique. Ça, moi, personnellement, j'y tiens beaucoup. On n'arrive pas en disant « poussez-vous, nous, on sait mieux faire », etc. On coopère et on travaille avec nous. Par exemple, on est partenaire avec une association, j'en profite pour la citer, à Montpellier, qui est GAM, l'association GAM. Vieille association de Montpellier, très importante. Et nous, nos présidents sont respectivement membres des conseils d'administration de l'un et de l'autre.
D'accord. Un croisement là, des regards.
C'est pour montrer l'envie aussi de coopérer, de travailler les uns avec les autres.
Et alors, vos collaborateurs, quel profil ont-ils? Il y a beaucoup de travailleurs sociaux, j'imagine.
Alors exactement. Nous, on est essentiellement liés à des moniteurs éducateurs spécialisés. Mais on a aussi des emplois du type... De gens qui sont dans le domaine de la santé, des maîtresses et maîtres de maison, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement dans le quotidien. J'ai parlé tout à l'heure de repas, de tout ce qui est hébergement et autres. On a aussi des veilleurs de nuit, parce qu'il faut sécuriser tous les établissements. Nous, on est présents 24 heures sur 24 sur les établissements, puisqu'on nous confie des responsabilités et de l'accompagnement des gens. Donc, c'est 24 heures sur 24. Et puis, il y a des équipes aussi, je tiens à les citer, parce qu'on les oublie souvent, c'est tout l'aspect logistique qu'il y a derrière. Et administratif, c'est-à-dire tous nos collègues qui nous aident dans la comptabilité, la question des ressources humaines, tout ce qui est évidemment lié à l'administratif. Voilà. Ben, tout ce petit monde, aujourd'hui, à Coalia Hero, ça fait une belle équipe, extrêmement active et, une fois de plus, qui nous permettent aussi de travailler nos missions dans les meilleures conditions possibles, même si le vrai sujet... C'est la question d'hébergement. Parce que quand on fait de l'hébergement, on est sur un sujet, c'est l'hébergement, il faut le trouver. Il faut donc loger des gens. C'est bien d'avoir des projets, mais il faut à un moment donné savoir où ils vont se faire. Et il y a plein de gens qui sont très solidaires en France et à Montpellier et dans l'Hérault aussi. Mais juste pour dire que quand on monte un projet, on va y venir tout à l'heure parce que vous voulez parler de la question de Celle-Neuve. En gros, je pense que tout le monde était content de voir ce bidonville se fermer. Mais comme il faut bien les déplacer quelque part, eh ben là où on arrive, on n'est pas toujours les mieux attendus. Et parce que voilà, ça s'adresse à une population compliquée et que parfois les gens ont peur. Mais je crois qu'on va aborder ces sujets tout à l'heure.
Vous me faites la transition, donc revenons à ça. Bon, rappelez-nous ce qu'était ce bidonville. À ma connaissance, le plus important de Montpellier, il y en avait d'autres, il y en a encore. Et où en est-on aujourd'hui, ce qui s'est passé pour prendre ce problème dans toutes ses dimensions et trouver, ce qui est passablement complexe, l'ensemble de solutions permettant d'améliorer sensiblement, je dirais, les conditions dans lesquelles ces personnes vivaient.
Alors, le bidonville de Celle-Neuve, il était depuis 8 années présent au niveau de la ville de Montpellier, donc dans le quartier de Celle-Neuve, c'est pour ça qu'on lui donne ce nom. 250 personnes étaient dans ce bidonville. Je n'ai pas dit « vivez dans ce bidonville », parce que vivre dans un bidonville, ça n'existe pas vraiment. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Pour ceux qui ont des images des bidonvilles de Rio, c'est exactement ce qui se passait, quoi. Donc des rats énormes, des conditions là, pas d'eau, pas d'électricité. Alors il y en avait parce qu'il y avait des branchements plus ou moins aléatoires, mais enfin, c'était un peu fou. Donc il était urgent de répondre à beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Certains des enfants sont nés, je vous l'ai dit, un bidonville qui avait plus de 8 ans. Donc plus de 8 ans, eh bien, il y a eu beaucoup de naissances pendant ces années. Donc il y a des enfants qui sont nés dans le bidonville et qui vivaient dans le bidonville depuis tout le temps. Hein. Voilà. Donc du coup, on s'est retrouvé devant le fait que les pouvoirs publics ont dit « Bon, c'est pas possible qu'à Montpellier, en 2021, c'était à l'époque en 2021, on puisse tolérer ça. » Et donc, ils ont organisé...
Alors, je m'arrête là-dessus parce que la prise en compte complète de cette affaire, me semble-t-il, n'est pas étrangère à la volonté qu'a exprimée la ville de Montpellier. Parce que cette question du bidonville, elle était là, quoi. Elle était abordée, mais me semble-t-il, plus sous l'angle de la sécurité ou de la sécurisation que les riverains pouvaient demander, d'ailleurs de manière légitime, que s'attaquer aux problèmes de fond et se retrousser les manches ou s'allier pour trouver l'ensemble des solutions. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
Oui, le projet est arrivé dans un contexte, et je crois que beaucoup de médias l'ont relayé, où sur d'autres bidonvilles, il y avait eu des fermetures d'une manière un peu plus ferme et brutale, ce qui a voulu au préfet d'avoir même le surnom de préfet bulldozer. Hein, donc ça a été assez particulier. Des bidonvilles qui, effectivement, concernaient moins de personnes parce que plus petits. Enfin, il y avait un contexte particulier. Et puis, plus généralement, de toute façon, il y avait, depuis le départ, y compris pour le bidonville de Celle-Neuve, en 2016, le premier idée de projet pour démanteler le bidonville né, sauf qu'il n'y avait pas de terrain. Enfin, il y avait un terrain, puis il n'a pas pu se faire au bout. C'est ce que je dis. Au bout d'un moment, après, pour trouver la réponse, c'est là qu'il faut reloger les gens. Vous pouvez déménager un bidonville, 250 personnes. Mais les gens qui sont dedans, les enfants, les mamans, il faut bien les reloger. Et donc, c'est ça qui était l'enjeu, c'est-à-dire de trouver le relogement et la forme du relogement. Et donc, c'était vraiment l'enjeu. Ça atterrit dans le quartier dit de la Rose. Et donc, dans ce quartier, il y avait un terrain disponible. On a pu monter... Alors, pourquoi village de transition ? C'est un joli mot, mais je l'explique. Donc, village, entre guillemets, parce que c'est un lieu où vivent 160 personnes. Enfin, c'était le nombre de personnes au moment où on a déménagé. 160 personnes qui sont issues du bidonville. Et de transition. Transition vers quoi ? Ben, du bidonville, qui était vraiment une vraie catastrophe, j'insiste, à une transition vers des logements. Donc, je reviens toujours tout à mon débat, de logements de droit commun ou des gens qui ont des droits, qui travaillent. Je rappelle que la plupart des gens sont issus de la communauté rome et que donc viennent de Roumanie et donc sont éligibles à un certain nombre de droits parce que de la communauté européenne. Donc, ce sont des gens qui peuvent tout simplement accéder aussi au travail, avoir une autonomie. Ça se passe d'ailleurs comme ça maintenant, qu'on peut mieux les accompagner dans de meilleures conditions et qui vont, comme tout un chacun, faire des demandes de logement, payer leur loyer grâce au travail qui va leur amener des revenus. Et donc, voilà. Donc, transition, c'est transition entre le bidonville et les logements de droit commun.
C'est transitoire, c'est provisoire pour X mois, X années. Est-ce qu'il y a une échéance ferme ou cette échéance dépend de chaque cas, de chaque famille, quoi.
Comment... 24 mois, ouais. C'est la mission qu'on nous a donnée. On a ouvert en avril 2022. 24 mois pour arriver à trouver des solutions à l'ensemble des personnes, donc des familles aussi, qui sont dans ce village de transition, qui sont des familles seulement issues du bidonville de Celle-Neuve. Là, aujourd'hui, il y a eu 40 personnes qui sont partis depuis avril 2022.
Ah oui, d'accord.
Ces 40 personnes, elles ont trouvé des logements ailleurs, d'accord. Elles ont un projet de vie ailleurs.
Donc, il y a un quart des personnes concernées
qui ont déjà...
Alors que bon, le village de transition, il était ouvert quoi, il y a 6 mois.
Avril 2022.
C'est ça, d'accord. Voilà.
Donc c'est très positif pour l'instant. Ouais, c'est pour ça que je sais que les financeurs, notamment la préfecture et la métropole et la ville, communiquent beaucoup là-dessus. Mais je suis très heureux qu'ils le fassent parce que c'est extrêmement positif.
Ouais.
Et c'est dû tout simplement qu'on peut mieux travailler les projets de vie avec ces personnes à partir du moment où elles sont logées dignement dans des conditions correctes plutôt que dans une ville. Et donc évidemment, ils sont eux-mêmes très acteurs. Hein. Ils n'attendent pas qu'on leur trouve des solutions. Mais ça se passe extrêmement bien. Donc... Oui, on est dans cette réalité de 40 personnes aujourd'hui qui en sont sorties. Et quand ils s'en vont, les logements dans lesquels ils étaient sont neutralisés. Il n'y a pas d'arrivée nouvelle. Pourtant, il pourrait y avoir des besoins.
Donc,
chacun me dira qu'il y a d'autres besoins ailleurs. Mais là, ce n'est pas le cas.
Le public concerné est stabilisé. Les gens qui étaient dans le bide d'envie de Salle-Neuve et qui partent
c'est
au fur et à mesure.
Et au bout de 24 mois, il ne faut plus personne.
D'accord.
Du coup, il fermera. Le village de transition fermera. On est dans des systèmes de logements modulaires volontairement. Puisque dans 24 mois, tout ça partira. Et je crois que la métropole a un autre projet. Le maire et président de la métropole en parle de temps en temps. Il donnera sûrement plus tard le projet qu'il a. Mais en gros, ce terrain n'a pas vocation à rester un village de transition. Le professionnel que je suis, je l'ai assumé, je l'ai déjà dit, ça me vaut des débats des fois avec les pouvoirs publics, pense que cette idée-là, par contre, d'avoir une zone de transition et des hébergements de transition pour d'autres personnes qui sont peut-être aujourd'hui dans d'autres bidonvilles ou dans des squats, etc., où de temps en temps, il faut aussi travailler cette transition entre les lieux de vie qui ne sont pas dignes et puis des futures possibilités de logement de droit commun. Par contre, devrait être, à mon avis, réfléchi et pérennisé dans une ville comme la taille de Montpellier, parce que là, pour le coup, on pourrait avoir une zone mieux définie, bien utile à faire en sorte que, justement, toutes ces populations dont on espère à un moment donné les sortir de ces hébergements de précarité extrême pour pouvoir, une fois de plus, les aider, puissent bénéficier d'un village de transition, une sorte de pérennisation de village d'accord. de transition. Mais ça ne sera pas sur le quartier de la Rose, j'insiste, parce que ça nous vaut quelques débats avec les voisins et les riverains. Mais ça pourrait être ailleurs. Et ça, c'est, là, pour le coup, moi, je lance l'appel, mais c'est au pouvoir public de le décider.
En s'appuyant sur la méthode.
Absolument.
Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, même si on reste prudent, des effets positifs de ce type d'accompagnement.
Alors nous, on est sous le regard très attentif des services du ministère du Logement et de l'Habitat. Pour être précis, même c'est la DIAL, c'est la Direction Habitat-Logement du ministère. Et donc on est très suivi parce qu'ils ont fait de Montpellier, c'est la première fois qu'il y avait un démantèlement d'une taille d'un bidonville de 250 personnes, une expérimentation nationale. Si on arrive à démontrer que c'est possible, je pense que ça fera ses petits. D'autres métropoles pourraient en bénéficier. Et ça justifiera ce que je suis en train de dire, d'avoir peut-être, et je le souhaite, ça c'est à discuter avec les gens en responsabilité, que ce soit la métropole, ville et évidemment les services de l'État, quelque chose qui pourrait être du coup plus pérenne dans le futur pour d'autres familles, d'autres usagers qui vivent aujourd'hui encore malheureusement dans des endroits qui ne sont pas dignes de pouvoir accueillir des gens.
Alors bien sûr, les sujets que nous évoquons sont en caractère local dont on a parlé, mais bien sûr, il y a des enjeux nationaux. Et ils se traduisent notamment, vous le savez, par une proposition de loi de deux députés du groupe Renaissance, c'est-à-dire soutien du président de la République, qui entendent durcir les mesures contre ce qu'ils appellent l'occupation illicite des logements, les squats. Alors, cette proposition de loi a suscité d'ores et déjà, au stade de l'année, le parcours parlementaire, des réactions assez vives. De votre côté, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'en définitive, ce que semble être le parti de protéger les gens qui voient leur villa squattée pendant des années, qui n'arrivent pas à faire valoir leur droit de propriété, peut justifier cette mesure? Est-ce que pour autant, les effets collatéraux de ce texte à voter, donc, peuvent être mis en cause, en tout cas discutés?
Alors là, je vais reprendre ma casquette d'ancien parlementaire aussi, tout en étant moi-même travailleur social et aujourd'hui en responsabilité sur ces enjeux de logement. On a régulièrement mis en avant par les médias, c'est des situations un peu exceptionnelles, de gens qui vont occuper des lieux d'une manière illégale, sans droit ni titre, effectivement, et qui, du coup, vont se retrouver dans une situation où mettent en péril des propriétaires qui ne sont pas des gens, la plupart du temps, très richissimes. Hein. Ça peut être monsieur et madame tout le monde qui se retrouvent devant ces situations. Donc je comprends l'idée qu'on essaye de favoriser le fait que, en gros, la loi qui avait une zone grise soit améliorée pour empêcher cette zone grise. Évidemment, le travailleur social que je suis, l'ancien parlementaire, une fois de plus, avec des engagements politiques que vous avez cités tout à l'heure, va tout de suite mettre en face en disant on peut arriver à ça si, de l'autre côté, on met des moyens pour permettre à des gens de se loger correctement. Et je ne pense pas que les gens envahissent les maisons des uns et des autres pour le plaisir. Et donc, du coup, on est sur une situation où il nous faut aussi créer la possibilité de dire si une maison est occupée illégalement, si un appartement est occupé illégalement, il faut qu'on puisse être dans la possibilité de dire aux gens, vous ne pouvez pas le faire, c'est illégal, il faut partir. Mais partir pour où ? Il faut leur proposer automatiquement une réponse immédiate de relogement. Souvent, que dans les configurations d'ailleurs des maisons dont on parle, il y a des familles. Vous avez souvent monsieur, madame, vous avez des enfants, etc. Donc on ne va pas mettre les gens à la rue. Donc je ne justifie pas, moi, le fait que l'acte de rentrer chez quelqu'un qui... et d'occuper sa propriété d'une manière illégale, ça c'est évident, on ne va pas le justifier. Pour autant, une fois de plus, quand on est en responsabilité publique, et notamment je pense pour des parlementaires, une fois de plus je l'ai été, on doit travailler les deux.
Oui,
la raison qui fait que le phénomène existe, donc il y a les aspects légaux, mais il y a les aspects aussi de réalité d'hébergement, et donc il faut en face proposer... le fait qu'on puisse, à un moment donné, donner des réponses rapides et sérieuses de relogement pour des familles qui, du coup, ont fait le mauvais choix. Hein, je le dis, c'est quand même un mauvais choix d'aller occuper un lieu. Voilà. Après, il y a monsieur et madame tout le monde qui se fait occuper. Et puis, il y a d'autres lieux. Vous en connaissez à Montpellier. Il y a eu des endroits, c'est le vieux débat du DAL, hein, voilà, droit au logement, hein, DAL, qui, du coup, dit, en gros, ben, voilà, vous avez des bâtiments, c'est quand même fou, vous avez des bâtiments
des logements
vides,
vacants,
des logements vacants, il n'y a personne dedans, et puis vous avez des gens à la rue. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ce que je dis, c'est au pouvoir public à régler aussi cet équilibre pour empêcher, effectivement, éventuellement, qu'au milieu, il y a des appartements ou des maisons de monsieur et madame tout le monde qui se retrouvent occupés. Mais c'est, voilà, il ne faudrait pas qu'au nom de ce principe-là et de la loi qui est en construction, on mette tout à égalité au niveau de la réponse à apporter.
Bien, bon, comme vous l'avez compris, bon, il y aurait d'autres questions qui viendraient, mais bon, nous arrivons au bout de cette émission. Merci beaucoup, Christophe Cavard. Donc, j'annonce la prochaine invitée. Ce sera Lilian Sauvebois, responsable de l'antenne montpelliéraine de l'association Action Femmes Grand Sud. Association qui facilite la réinsertion professionnelle de femmes de plus de 45 ans. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès. Sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.